Merci, bonsoir messieurs, dames. Merci monsieur le maire de m'accueillir et à Fanny de m'accueillir avec autant de gentillesse. C'est vraiment un plaisir d'être invité à Sainte-Afrique. Et en effet, je le reconnais, un addict au Roquefort. Je trouve que c'est une bonne addiction. Et pour enchaîner, si vous voulez, quand même, sur ce que on peut évoquer pour qu'on ne confonde pas un peu les pratiques, retenons que nous appellerons addiction des comportements qui deviennent plus forts que le sujet lui-même parce qu'il se rend prisonnier d'une substance ou d'une pratique dont il ne peut plus se passer. L'addiction, c'est ne plus pouvoir s'arrêter, ne plus pouvoir se passer de quelque chose qui est soit en effet une substance, le tabac, l'alcool, le cannabis, d'autres drogues, certains médicaments, parce qu'on parle toujours des drogues illicites, mais il y a des drogues licites qui sont tout à fait addictogènes, en particulier les somnifères, les anxiolytiques. On estime, par exemple, si vous voulez, qu'au bout de 3 semaines de prise d'anxiolytiques, de manière régulière, on commence à rentrer dans un dispositif d'addiction. C'est-à-dire que la répétition de certaines pratiques amène le sujet à devenir dépendant de cette pratique. Et là, il se passe des phénomènes qui sont compliqués, parce que autant on peut comprendre, si vous voulez, que certaines substances comme le tabac ou l'alcool suscitent en eux-mêmes, ont un fort pouvoir addictogène en soi, par les effets sur le cerveau, autant on a du mal à comprendre comment le jogging peut être une addiction. Mais oui, ça peut être une addiction, bien entendu, parce que la répétition de ce type de conduite amène la sécrétion de certains neuromédiateurs dans le cerveau qui rendent dépendants. Et j'ai une de mes voisines qui est, elle le reconnaît d'ailleurs, addict au jogging, elle ne peut pas commencer la journée sans aller courir parce que c'est devenu chez elle un besoin. Donc on retiendra que ben, y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont addictogènes et évidemment ben, il faut essayer de mieux les comprendre comment ça fonctionne pour, en ce qui concerne les adolescents, essayer de prévenir certains de leurs problèmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme principale addiction qui les guette? Ils ont des codes de consommation à défaut d'avoir des rites de passage. Vous savez que dans les sociétés traditionnelles, le passage de l'enfance à l'âge adulte se fait avec des rites qui sont développés par les adultes et qui consistent à exposer les jeunes gens à diverses expériences qui leur permettent de passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Nos sociétés modernes ne disposent quasiment plus de rites de passage, puisque les rites sociétaux qu'on reconnaît encore comme à peu près rites de passage, c'est en gros le BAFA, la conduite accompagnée, le permis et le bac. Ça fait quand même pas beaucoup de choses pour intégrer vraiment qu'on est en train de changer d'état, de passer de l'enfance à l'âge adulte. Et d'autant moins que la période justement de transition, qui est normalement l'adolescence, ben elle tend à se dilater dans le temps. Je vous rappelle que normalement, au sens étymologique du mot adolescence, c'est le participe présent du verbe latin adolescere, qui veut dire en train de grandir, en train de croître, en train de pousser, comme on le dirait d'une plante. Donc normalement, la vraie adolescence devrait démarrer à la puberté, début de la période de croissance, comme on le dit très bien, les mots le parlent d'eux-mêmes, et la fin de la période de croissance, ben, si la puberté c'est à peu près 12 ans, 12 ans et demi chez les filles, 13 ans, 13 ans et demi chez les garçons, la fin de l'adolescence vraiment au sens strict, ça serait 16, 17 ans, allez, allons jusqu'à 18 ans, et donc les vrais adolescents devraient être les 12, 18 ans. Mais vous voyez bien, comme moi, que c'est devenu une nébuleuse qui commence avant la puberté, les fameux pré-ados sont en réalité des enfants, sur le plan biologique, mais qui se reconnaissent déjà dans des rites de consommation adolescente. Et à 18 ans, bien entendu, c'est loin d'être terminé, puisque bon nombre de jeunes gens qui vont avoir 20 ans, 21, 22, 23 ans, et même allons jusqu'à 25 ans, ces jeunes gens-là ne sauraient pas dire si ce sont des jeunes adultes ou des vieux adolescents. Donc, cette nébuleuse, elle n'est pas ancienne. C'est une nébuleuse qui est largement entretenue par la société de consommation, puisque bien entendu, plus on entretient des conduites de consommation chez les gens, et plus longtemps ça dure, meilleur se passe le commerce. Et c'est ce qu'on voit, et parmi les premiers effets, vous voyez, ça peut paraître étonnant de parler de ça comme addiction, mais les premiers effets, c'est les pratiques du look et les accessoires du look, sans lesquels l'adolescent d'aujourd'hui se sent en quelque sorte déshabillé. Et ça commence très tôt, dès l'âge de 7-8 ans, les jeunes gens commencent à revendiquer, ils veulent plus un jean comme ci, ils veulent un jean comme ça, ils veulent telle ou telle tenue, telle ou telle marque. Les marques de baskets, c'est incroyable, si vous voulez, les baskets aujourd'hui valent entre 120 et 350 euros. Vous vous rendez compte? 350 euros une paire de tennis? Une tenue standard d'ado aujourd'hui de 15 ans coûte 1000 euros. Ça fait cher quand même, hein? Et donc, le look, parce que ce sont des enfants de l'image, a une telle importance qu'ils se définissent aussi avec des codes de consommation. Alors, quel genre de code de consommation? Au niveau du look, il est de bon ton pour un adolescent d'avoir un paquet de cigarettes ou un paquet de tabac à rouler, parce que ça fait adolescent de pouvoir fumer. D'avoir éventuellement un selfie avec un verre de bière, ou mieux, de vodka, et éventuellement de mojito. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous dites à un adolescent « Est-ce que tout le monde connaît le mojito ?» Je ne l'ai pas fait ce matin au petit des cinquièmes quand même. Hein. Mais fort et de bras, oui, ils connaissent tous le mojito. Combien ça coûte? 8 euros, ils vous disent. C'est une valeur, si vous voulez, reconnue. Voilà, ça coûte tant, ça représente cette valeur-là. Donc, code de consommation qui s'expose. C'est-à-dire qu'on se montre avec la cigarette à la main, on se montre éventuellement devant le collège avec une cigarette, on pratique ou pas, forcément, mais on s'expose avec. Évidemment, la tentation, c'est de passer de l'exposition à la véritable consommation. Et vous vous doutez bien que si on commence à se présenter avec un paquet de cigarettes, il va être probable qu'on va se mettre à en consommer et à devenir, du coup, esclave, dépendant de cette pratique. Alors, ça me donne, ça, un premier conseil que j'aurais envie de donner aux parents et aux adultes d'une manière générale concernant le tabac. On me dit souvent, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les adultes donnent le bon exemple en cessant eux-mêmes de fumer. C'est très gentil de dire ça, sauf que c'est pas possible. Sauf si les adultes se cachent. Auquel cas, s'ils se cachent, ce sont en fait des adolescents. Vieux, mais adolescents dans le comportement. Je pense que c'est pas que l'exemplarité n'est pas forcément dans la non-pratique de l'addiction. C'est en un, dans la reconnaissance de son addiction, dans la capacité de pouvoir dire à ses enfants, quand on est parent et qu'on fume des cigarettes, parce que je suis obligé de dire « fume des cigarettes », parce que « fumer » a le double sens aujourd'hui de « des cigarettes » ou autre chose qui se fume. Reconnaître qu'on est dépendant de la cigarette et qu'on le déplore est une attitude adulte responsable. C'est ça qu'il faut pouvoir attendre d'un adulte. Reconnaître qu'il est dépendant, qu'il le regrette et qu'il serait même capable d'expliquer comment il en est arrivé à être addict. Et raconter ça à un adolescent est une bonne chose. Et la deuxième règle qui me paraît très importante, c'est de parvenir à définir des espaces de non-pratique. Et en particulier quand il s'agit de la maison, eh bien admettre que la maison est un espace sans tabac, mais attention, pour tout le monde. C'est-à-dire pour les parents, pour la fratrie plus âgée, pour les amis adultes qui viennent à la maison, pour tout le monde. Et les adolescents vont accepter de respecter la maison, l'espace sans tabac, à condition que ce soit respecté par les adultes. Ça, c'est une règle très importante. L'exemplarité, c'est ça, essentiellement, si vous voulez. C'est la capacité à définir des règles auxquelles on se soumet aussi dès lors qu'on veut, justement, afficher quelque chose de correct. C'est exactement la même chose pour les outils numériques. Vous avez bien compris que nos enfants, nos adolescents sont des enfants du numérique. Les Anglais, les Américains les appellent des « digital natives », donc ils sont nés avec, ils utilisent les objets connectés mieux que les adultes. On en parlait hier soir, ça a inversé complètement le processus éducatif puisqu'ils savent mieux utiliser les outils numériques que leurs parents et encore plus que leurs grands-parents. Mais cette dépendance à l'objet connecté que les parents ont de plus en plus eux aussi, hein, faut quand même l'admettre, ne va permettre d'avoir une exemplarité à la maison que dans la mesure où les parents s'infligent à eux-mêmes les mêmes règles qu'ils soumettent à leur, qu'ils donnent à leur enfant. Exemple. Pour moi, un adolescent de moins de 16 ans ne doit pas dormir avec un ordinateur dans sa chambre, ni une tablette, ni un portable. Vous allez me dire, mais ça c'est très gentil, sauf que moi, quand je dis ça, dit cette maman, j'obtiens jamais rien. Et pourquoi est-ce que cette maman n'obtient jamais rien? Parce que maman joue dans son lit à Candy Crush, tandis que papa est au poker en ligne dans le salon. Et ça, ça ne va pas, voyez-vous. L'exemplarité, dans le mauvais sens du terme, ne va jamais permettre à l'adolescent d'accepter de dormir sans portable. Alors qu'est-ce que je préconise? Eh bien, si les adultes ne sont pas un métier de garde, ne sont pas obligés de rester connectés du fait de leur métier, l'idéal est de pouvoir mettre, et l'endroit le mieux, c'est la cuisine, des socles de portables pour les mettre à recharger pendant la nuit et accepter de dire que la nuit, les portables dorment aussi. Tout le monde pose son portable. À quelle heure? 22h30, 23h maxi. Et ça, ça permet beaucoup mieux, si vous voulez, d'accepter de ne pas dormir avec. Parce que sinon, les adolescents vont vous raconter qu'ils l'utilisent comme réveil matin, que c'est au cas où une copine les appelle, et le fait est que vous comprenez bien que si jamais Alexandra appelle Vanessa à minuit parce qu'elle vient de casser avec son copain, elles vont partir dans un chat infernal qui va faire que, aujourd'hui, le temps de sommeil de nos ados se réduit à cause de l'utilisation de ces outils et de la dépendance qui en résulte, alors même que les heures de rentrée scolaire le matin n'ont pas changé. Et donc il y a une compression, si vous voulez, temporelle, qui fait que nos ados dorment plus assez pour tous ceux qui vont garder les objets connectés branchés au-delà de 23 heures. Et je conseille moi-même 22h30. Alors là, je vais attaquer une catégorie de personnes qui, j'espère, vont accepter l'attaque, qui est une attaque gentille. Mais je vais attaquer les mamies. Aujourd'hui, le vrai pouvoir d'achat, c'est les mamies. Et tandis que maman a un Nokia diesel, qui marche encore très bien, elle dira, mamie a équipé ses petits-enfants du dernier Samsung Edge Galaxy 7 ou de l'iPhone, on en est au numéro 7. À 800 euros la pièce, quand même, hein, l'outil. Hein. Et elle croit bien faire en offrant ce cadeau à leurs petits-enfants. Eh bien, c'est une mauvaise idée d'offrir des objets hyper connectés et hyper haut de gamme aux enfants, alors que les parents ont des outils un peu moins reluisants. Parce que, alors que nos enfants sont géolocalisables, du fait de ces outils merveilleux, à 1,5 mètre près, si vous leur demandez vers où c'est le Moyen-Orient, ils ne le savent pas. Ils ne connaissent pas le monde, parce qu'on ne leur montre plus de map monde. Donc un conseil aux mamies, et c'est ça mon attaque. Arrêtez d'offrir des iPhones et des Samsung, offrez-leur des lampes de chevet qui font map monde. Et des réveils matins mécaniques, parce que c'est vintage, et c'est très à la mode aujourd'hui, le truc qui fait tic-tac, et qui réveille le matin, parce que dormir avec un objet connecté, c'est en effet prendre le risque d'avoir envie de continuer. Alors, on parlait du coup de téléphone de la copine qui a cassé, mais il faudrait évidemment parler des tablettes et des séries, puisque vous savez que nos enfants consomment essentiellement des séries plus que des films, et les séries, bien entendu, les fabricants de séries font tout pour entretenir la dépendance et faire que, quand on a vu la saison 1, ben, il y aura la saison 2, et puis après il y aura la saison 3, et d'ailleurs, et vous voyez comment on est. Moi j'entends dans le couloir de l'hôpital, j'arrive le matin, j'entends un médecin qui dit à une infirmière, « T'as réussi à télécharger la saison 6 ?»« Non, mais je suis encore à la saison 5. » Et donc ça, si vous voulez, c'est étudié, de toute façon, il faut l'avoir en tête, hein, c'est étudié pour rendre les gens dépendants à cette pratique, et nos ados, bah, évidemment, sous la couette, avec une tablette, ils vont regarder toute une saison entière. Alors vous savez qu'un épisode, ça dure entre 45 et 50 minutes, donc si une saison comporte 5, 6 ou 7 épisodes, vous voyez le genre de temps qu'il va falloir consommer pour absorber la série et sa suite, et être, bien entendu, ensuite dépendant de cette pratique. Alors, le problème, quand même, c'est que, enfants du numérique, on ne peut pas non plus leur dire, parce que ça existe, écoute, nous, on est contre tout ça, d'ailleurs, on est pour la bougie, on ne veut plus d'écran, on ne veut pas ni la télé, ni quoi que ce soit. Alors là, évidemment, c'est un discours qui est radical, et qui va poser des problèmes, parce que il faut bien comprendre que les adolescents, et encore plus dans le milieu de nos adolescents enfants de l'image, ont l'obligation, en quelque sorte, pour ne pas se faire rejeter par leur père payé à IRS, d'être conformes. Et du coup, celui ou celle qui va se retrouver sans rien, sans aucun moyen d'être connecté, qui n'aura pas jamais vu telle série, qui n'aura jamais vu telle ou telle émission ou telle chose, se retrouvera marginalisé par rapport aux autres. Et ça, c'est pas une bonne chose, c'est pas un cadeau qu'on lui fait, parce que, évidemment, il ne pourra pas supporter d'être marginalisé comme ça, et il aura donc la tentation de mentir, de dissimuler et d'obtenir ces objets d'une manière éventuellement illégale. Et on en parlait ce matin avec les jeunes. Je leur donnais l'exemple de quelqu'un qui vendait du cannabis pour obtenir les sous, pour s'acheter ces objets qui étaient interdits à la maison. Et ça, c'est une règle éducative qu'il faut vraiment que les parents aient en tête. Attachez votre ceinture parce qu'elle est un petit peu raide à entendre. Chaque fois qu'un adolescent ment, dissimule, c'est parce que nous, les adultes, nous l'acculons à cette extrémité, alors qu'on croit, au contraire, lui témoigner nos valeurs, notre attention, etc. Quand un adolescent ne cesse de mentir sans arrêt, c'est qu'on est... On a une attitude tellement fermée, tellement rigide, tellement empêchante, tellement impossible de négociation dans le dialogue, que ça oblige l'enfant à mentir. Évidemment, vous allez me dire, dans l'autre sens, est-ce que donc il faut tout le temps tout accueillir et tout accepter de la part de l'adolescent ? Bien sûr que non. Il faut définir les limites. Il faut se rappeler que les limites, c'est un espace, la limite au sens latin du terme, c'est l'espace, l'entre-deux, qui distingue deux territoires adjacents. Donc c'est un pan de territoire qui n'appartient ni à A ni à B, dans lequel il y a négociation pour que chacun définisse ses frontières réciproques. Donc, par exemple, ce que les parents doivent absolument faire quand il y a une fratrie d'un enfant de 13 ans et d'un enfant de 15 ans, c'est de bien faire la distinction de pratique, d'accès entre les deux âges. L'enfant, je vous dis n'importe quoi, l'enfant de 13 ans aura un forfait d'une heure, celui de 15 ans aura un forfait de 3 heures. Et ça, c'est normal. Et c'est reconnu comme tel par les adolescents. Ce qui ne va pas, c'est de traiter tout le monde à la même enseigne. Et une autre règle psychologique qu'il faut avoir en tête, c'est que non seulement les adultes convoquent le mensonge, mais ce sont les adultes, les parents, qui doivent gérer la rivalité fraternelle, car c'est comme ça, chez les humains, dans la fratrie, le premier mouvement affectif, en dehors de l'amour porté aux uns et aux autres, c'est la jalousie. Et les parents, c'est à eux de gérer la jalousie dans la fratrie. Et pour gérer correctement la jalousie, il faut définir des règles, et il faut que les règles soient proportionnelles aux accès possibles en fonction de l'âge. Ça, ça me donne vraiment, si vous voulez, l'occasion de vous dire quelque chose de très important. On ne fait plus suffisamment de seuils, on ne fait plus suffisamment d'accès progressif à un certain nombre de pratiques. Et ça aussi, ça procède de l'addiction. C'est tout, tout de suite. Et tout, tout de suite, ça précipite le sujet dans le trop, dans le gavage, dans le remplissage, qui est évidemment la porte ouverte à toutes les addictions. Il faut favoriser les accès, les discussions. Un enfant de 12 ans ou de 13 ans qui veut un portable, il va falloir qu'il le négocie avec ses parents. Il va falloir qu'il explique pourquoi faire, combien de temps il compte s'en servir, avec qui, etc. Alors on va dire, ah ben c'est prise de tête, eh ben oui. C'est prise de tête éducative que d'élever un enfant. Il faut obliger l'enfant à exposer les raisons avec lesquelles il va utiliser telle ou telle chose. S'il a l'impression que c'est facile et que mamie, ça y est, mamie a lâché 800 euros dans le Samsung, ben, maman, qui gagne à peine un peu plus que ça en tant que caissière à Intermarché, elle va avoir, comme on dit, les boules, entre guillemets, parce qu'elle aura l'impression que ben on prend pas en compte aussi, elle, sa réalité. Vous voyez ? Il faut apprendre aux enfants à négocier les accès. Et un autre conseil que je voudrais vous donner, c'est que l'argent ne tombant pas du ciel et les arbres à billets à 20 euros n'existant pas, ce n'est pas une bonne idée que de distribuer l'argent de poche à la volée aux adolescents. C'est normal de donner une petite somme qui doit rester raisonnable et elle aussi proportionnelle à l'âge. Et il faut vraiment s'employer à respecter ça au sein de la fratrie. Comment on définit la somme ? En discutant avec d'autres adultes et en faisant une moyenne à partir des amis, des autres adultes qu'on peut connaître. On définit une certaine somme qui doit rester raisonnable. Toute somme supérieure à l'argent de poche devra être travaillée. On ne donnera pas 20 euros par-ci et 20 euros par-là à un adolescent parce que il va l'utiliser d'une manière qui ne respectera pas justement l'intégration des différents accès. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme travail à un adolescent ? Des travaux jugés pénibles par les adultes et qui ne relèvent pas de la communauté familiale. Mettre le couvert et débarrasser le couvert, ça s'appelle pas un métier, si vous voulez. C'est pas non plus un travail. C'est normalement une règle familiale partagée que tout le monde, à laquelle tout le monde doit pouvoir participer. Moi, je pense que laver la voiture, laver les vitres, tondre le gazon quand il y en a beaucoup, etc., ça peut relever d'un petit travail qui permettra à l'adolescent d'enregistrer que ce n'est jamais tout, tout de suite, c'est tout ce qu'on veut au départ, qui doit ensuite être négocié pour passer de l'absolu au relatif. Sans quoi, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les dérives, et on le voit vraiment dans beaucoup de familles, si vous voulez, où croyant bien faire, on gave les enfants avant même, d'ailleurs on devance même leurs désirs, en leur donnant des moyens qui sont disproportionnés par rapport à leur réel pouvoir et à leur réelle capacité à le gérer. Car le fond du fond, c'est d'être capable de gérer ses consommations, c'est aussi ça, hein, le rempart à l'addiction, d'être capable de gérer dans l'excès, si vous voulez, ces différentes consommations. Alors, il y a encore une autre chose qu'il faut pouvoir dire, c'est que beaucoup de nos enfants, de nos adolescents, sont non seulement des enfants du tout tout de suite, mais ils veulent, ce sont aussi des enfants du zapping. Et une des caractéristiques aussi de notre modernité, qui dessert beaucoup le monde éducatif, au sens large, y compris parental, c'est le fait que, enfant du numérique, il double-clique tout. Si ça double-clique pas, ça rame. Si ça rame, c'est pas bon. Il y a une incapacité à tolérer le différé, à tolérer l'absence, à tolérer l'ennui, qui est phénoménale aujourd'hui. C'est tout, tout de suite ou rien. Et ça, ça implique plein de choses qui, vous allez le voir, concernent aussi les consommations. Dans le zapping, il se passe quoi ? Il se passe que on regarde quelque chose, enfin on consomme quelque chose, on absorbe quelque chose, ça peut être donc des images, des informations, n'importe quoi, et dès que ça nécessite un effort, on lâche l'affaire. Donc il y a, si vous voulez, une difficulté aujourd'hui dans la génération de nos adolescents, de nos enfants d'une manière générale, à tolérer l'effort, parce que l'effort, c'est prise de tête. Et parce que tout ce qui fait effort va être douloureux, on a tendance à lâcher l'effort et à vouloir obtenir les choses immédiatement. Le premier effet observé et mesuré par des neuropsychologues, c'est que nourris d'objets connectés, nos enfants fabriquent davantage de neurones que nous en avons, nous, eu comme équipement de base. Le cerveau de nos enfants augmente de taille. Et il augmente de taille dans le sens antéro-postérieur. Antéro, c'est-à-dire antérieur, c'est du cortex frontal, c'est du cortex de réflexion, de capacité cognitive importante. Et postérieur, c'est le cortex occipital, c'est-à-dire le cortex visuel. Nos enfants développent des capacités cérébrales supérieures aux nôtres, dans le sens antéro-postérieur, donc la capacité cognitive et le lien visuel très important. Je le disais hier soir, ils sont audiovisuels, mais davantage visuels qu'audio. Tout doit passer par l'image. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on observe chez eux ? Eh bien, on observe qu'ils sont doués d'une capacité qui s'appelle la polyvalence. Ils sont capables, avec leur portable, d'envoyer un texto en même temps qu'ils participent à une discussion. Ce que moi je ne sais pas faire, avec une dextérité que vous connaissez tous. Moi, quand en consultation je reçois un message sur mon portable et que je réponds avec le doigt, je vois dans leur regard, à peu près le regard qu'on a envers un infirme, vous voyez, d'un air de dire... Et alors, il y en a parfois, ils me disent, mais on peut vous aider C'est douloureux pour eux, si vous voulez, de voir un doigt sur les touches. Donc, ils sont polyvalents, et donc ils sont très intelligents. Faut d'ailleurs féliciter leur maman, vous, parce que vous avez fait hyper attention, vous avez pris toutes les protéines qu'il fallait pendant que vous étiez enceinte, vous avez fait hyper attention avec la cigarette, le tabac, c'est le seul moment où d'ailleurs vous avez arrêté de fumer, parce que vous vouliez pas faire un petit drogué. Nickel. Ensuite, une fois né, il a été vacciné, dorloté, chouchouté, cagoulé. pour vraiment passer à travers tous les problèmes. Et en effet, ils sont magnifiques, nos enfants, hein, d'ailleurs. Les ados d'aujourd'hui sont magnifiques. Ils sont plus grands que nous. Un garçon de 15 ans fait en moyenne du 44 de chaussures. Et les filles font du 39. Donc, vous voyez, donc ils sont plus grands. Quand maman dit à Martial, tu rentreras pas trop tard, elle lui parle comme ça. Donc, c'est quand même, bon. Donc, ils sont très beaux, très grands, très intelligents, très doués, mais ils ont un souci avec l'effort et avec la concentration. Ils sont capables de se concentrer sur une tâche qui est une tâche éducative, donc pas un plaisir, hein. Quelque chose à, par exemple, à apprendre ou à comprendre. Une tâche éducative, ils peuvent se concentrer dessus 13 minutes d'affilée. Au bout de 13 minutes, ils lâchent l'affaire. Pour une période de pause qui dure au moins autant de temps. Vous le savez, ça? Donc, quand vous les voyez avoir le regard qui commence à se flouter au bout d'un quart d'heure, c'est qu'ils sont en mode lâchage de l'affaire, c'est pause. Alors, pendant laquelle ils vont consulter leur messagerie, discuter avec leurs copains, enfin, ils vont faire des trucs interdits, évidemment. Et au bout de ce temps de pause, soit c'est intéressant, ou bien on va avoir la soluce, c'est-à-dire la solution, et donc on va pas ramer, et là ils peuvent remiser un quart d'heure de concentration. Mais là c'est vraiment le cadeau, hein. C'est vraiment le prof qui a hyper impliqué ses élèves, vous voyez. Donc quand on parle de rythme scolaire, vous voyez, c'est à l'heure que ça doit se calculer, le rythme scolaire. Et sinon, si c'est pas intéressant ou si on n'a pas les solutions, zapping. Ça, c'est un vrai souci. Alors vous allez me dire, mais alors comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire s'ils sont comme ça? Eh bien, la seule chose qu'il faut pouvoir faire, il y avait une dame hier soir, ce matin, un professeur qui disait, la vraie motivation, c'est la volonté. Non. Non. La vraie motivation, c'est l'intérêt à faire quelque chose. Les humains que nous sommes, nous faisons les choses qui nous intéressent d'abord. Eh bien, eux, nos enfants, ils sont encore plus dans cette affaire-là. Il faut donc pouvoir utiliser ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient, parce que si on essaie de leur faire ingurgiter des choses qu'ils ne veulent pas avaler, eh bien, ils vous le recrachent à la figure. Mais c'est au sens propre et au sens figuré. Les jeunes mamans ici savent bien que quand le petit commence à faire des bulles avec sa bouillie, c'est pas la peine d'insister, parce que si vous insistez encore avec la cuillère, et vous connaissez le coup, la cuillère dans la joue, et là, la maman s'énerve. Hein, parce que, évidemment, il refuse. C'est une position de refus. Nos enfants, les ados, sont dans des positions de refus, de fermeture des écoutilles, dès lors qu'on leur inflige quelque chose de force. C'est comme ça. Alors après, on va dire, ben oui, c'était mieux avant. Enfin, vous savez, on dit toujours ça, que c'était toujours mieux avant. Il se trouve que c'est comme ça, qu'on peut pas faire autrement, et que donc il faudra toujours essayer de capter leur intérêt. Et c'est vrai également dans mon corps de métier, si vous voulez, la psychologie. C'est-à-dire susciter un intérêt pour mobiliser leur attention. Je vais vous en donner un exemple. Il y a 20 ans, j'aurais demandé à une jeune fille en difficulté identitaire, qui ne sait pas trop bien si elle se sent bien en fille ou pas, enfin, en difficulté avec son corps, j'aurais pu lui poser des questions du genre « Mais est-ce que tu te sens ?» Comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu te sens bien? Tu habites bien ton corps? Enfin, des choses comme... J'aurais pu lui parler comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'air d'un personnage de série, si je fais ça, si vous voulez. Je suis un espèce de mentaliste à la gomme. Vous voyez, elle me regarde d'un air de dire non, n'importe quoi. Enfin, c'est bon. Elles font, c'est bon. Et donc, pour arriver à savoir si... je pense qu'il y a un petit souci du côté identitaire. Je peux, par exemple, je vais vous en faire une caricature, mais c'est pour vous montrer comment on suscite l'intérêt, je vais lui dire « Alexandra, est-ce que tu es prête à ce que je te pose une question rouge ?» Alors elle serait dit tout de suite, ça veut dire quoi ? Un jeudi te demande, est-ce que tu as déjà fait du ski? Oui. Alors ma question est rouge, donc avec des bosses assez verglacées, et à la moindre faute de quart, tu pars dans les sapins. Jamais j'ai eu une jeune fille qui refusait la question rouge une fois que je disais ça. C'est-à-dire que là, il faut se souvenir que enfants de l'image, ce sont aussi des enfants de la représentation dans tous les sens du terme. Tout ce qui fait image est image visualisable. Elle se le représente très bien, la piste rouge avec les bosses verglacées, les sapins en contrebas. Elle voit très bien ce que ça peut être, si vous voulez. À partir de là, on suscite chez elle une curiosité. Et on ne lui lâche surtout pas la question tout de suite. Une fois qu'on a vu qu'on éveillait en elle une petite lueur d'intérêt, on va l'obliger à avaler du différé. Et on va lui dire, alors, tu prends la question rouge? Ok. Alors, concentre-toi bien. Vous voyez le truc? Et tu me diras quand tu es prête. Non, non, mais c'est bon, je... Non, non. Là, t'es pas concentré. Tu te concentres, et une fois que t'es bien prête, tu me dis, prête! Alexandra, comment tu sais que t'es une fille? Alors là, elle s'attendait à tout, si vous voulez, sauf à des questions aussi cash. Et en réalité, peu importe qu'elle réponde quoi que ce soit, que... Ce qui aura compté, c'est qu'elle aura été mobilisée du côté de l'intérêt. Elle aura eu envie d'échanger avec la personne. Alors je ne vous dis pas la copine qui l'attend dans le couloir. Elle va dire, il est complètement fou, il pose des questions à la con, mais c'est quand même assez pas mal, c'est intéressant. Et les copines vont se parler ensemble, etc. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut susciter l'intérêt. Donc évidemment, quand on est prof, on ne va pas poser ce genre de choses, mais... Il faudra toujours savoir que s'il n'y a pas de mobilisation de l'intérêt avec une capacité à supporter le différé, on leur a fait le coup ce matin. Hein. Je leur présentais trois situations. La dernière situation, je leur ai dit, bon là j'ai une situation, mais elle est un peu hard, je ne sais pas si je vais vous la donner. Tout de suite, les oreilles, hein, vous avez vu, c'est tout de suite dressé. Et ça, si vous voulez, c'était une manière aussi de pouvoir, parce qu'ils avaient déjà avalé 1h20 de conférences, enfin d'échanges. Ils ont été super, hein, d'ailleurs, vos enfants, hein, là, les petits, là, franchement, ce matin, ils étaient forés de bras, ils répondaient, ils avaient envie de dire plein de choses, etc. Mais au bout d'1h20, je voulais quand même tester s'ils étaient encore capables d'entendre. Eh ben oui, ils en redemandaient parce que on suscitait l'envie d'en savoir plus. Ça, faut vraiment l'avoir en tête, si vous voulez. Je me souviens de cette pauvre prof qui était venue au centre Abadie, donc le centre où je travaille à Bordeaux, qui accueille des adolescents. Il y a une association de soutien scolaire aux enfants malades. Des profs bénévoles qui viennent donner des cours aux adolescents qui sont hospitalisés. Donc c'est super. C'est des bénévoles, c'est vraiment hyper gentil de leur part. De temps en temps, parmi les bénévoles, il y a des nouveaux qui n'ont pas bien compris comment ça marchait. Alors, on a un jour eu une dame âgée, prof de latin, qui venait leur parler d'Astérix en latin. Des ados d'aujourd'hui. Alors déjà, Astérix, ils vous regardent, ils cherchent dans leur tête s'il y a une série qui s'appelle Astérix. Non. Ils ont vaguement entendu que leurs parents, des fois, ou ils ont vu un livre des parents, donc un truc vieux, quoi. Un truc... Ok. Mais alors, en plus, en latin, non mais oh, impossible. C'est pas la peine. Et donc, il faut aussi avoir en tête que on ne peut... attirer leur attention qu'en mobilisant chez eux l'envie d'en savoir davantage. Et ça, ça demande c'est du travail. C'est-à-dire que, en effet, aujourd'hui, c'est pas facile d'éduquer. Il faut aller vraiment au bout du bout et les attirer vers non pas la consommation passive, mais la capacité de se mettre acteur de quelque chose. c'est l'expérience qui permet de faire des essais, de faire des erreurs, d'apprendre des choses, de s'ouvrir au monde, et pas des choses toutes faites, toutes prêtes, qu'il faudrait consommer seulement réchauffées. Alors là, ça, il faut l'entendre dans tous les sens du terme, si vous voulez. Les addictions alimentaires naissent aussi des plats cuisinés réchauffés au micro-ondes. Alors voilà, on connaît, et je suis sûr que vous en connaissez, des ados qui croient que le riz se cuit en 2 minutes. Ou les pâtes en 1 minute, qu'il suffit de percer dans la petite barquette pour le mettre au micro-ondes et que c'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Il faut leur apprendre à mettre la main à la pâte au sens propre comme au sens figuré. L'éducation, c'est un apprentissage. Et là encore, vous voyez comment on peut se tromper d'un point de vue éducatif quand on dessert ce qui est vraiment l'apprentissage des métiers, quand on ne veut pas les autoriser à avoir des expériences, quand on ne suscite pas chez eux la mobilisation qui consiste à tester des choses pour pouvoir avoir envie de continuer à les faire. Sinon, non. Sinon, ils prennent et ils jettent. Ils prennent et ils jettent. Et je le disais hier soir, parmi les nouvelles conduites qu'on a aujourd'hui chez les adolescents, il y a les crises de boulimie avec vomissements provoqués. Crise de boulimie, je prends. Et une fois que j'ai trop pris, comme je suis un enfant de l'image, je dois gérer ce qui va advenir de tout ce que j'ai mangé, qui était en plus très gras, des viennoiseries, etc. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vomir. Et là, ça me conduit à cette anecdote terrible, où un jour, ma secrétaire me dit, il y a le boulanger du bout de la rue qui veut vous parler. Alors, en général, quand des commerçants veulent me parler, c'est parce qu'ils ont un enfant qui va pas bien, ils veulent demander une consulte, enfin, des trucs comme ça. Alors, j'avais presque envie de dire, bon, ben oui, mais il faut voir, inscrivez-le dans la consultation. Et puis, elle insiste, il me dit, il veut vraiment vous parler. Alors, je prends le boulanger au téléphone, et là, il me dit, monsieur, j'ai un souci avec vos patients. Ils viennent, certains, le matin, m'acheter un paquet de viennoiseries, ils le mangent devant la boutique, et ensuite ils le vomissent. C'est pas bon pour la clientèle. Le fait est, hein. Prendre et jeter. Un comportement, si vous voulez, qui est actuel, et qui vient bien dire quelque chose. Quand ils nous disent qu'ils sont gavés, qu'on les gave, qu'on les remplit, et donc, ils se vident, notamment dans les crises de boulimie avec vomissements provoqués. Mais qu'est-ce qu'ils font dans le binge drinking, à part ça? Alors, petit rappel, ça vous intéresse? Le binge drinking? Le comportement du binge, en anglais, ça veut dire bamboche, débauche. Drinking, boire. L'expression familière qui serait la traduction de binge drinking, c'est biture express. C'est-à-dire boire un maximum d'alcool en un minimum de temps. La pratique est née en Scandinavie, où les alcools étant fortement taxés, les gens et ces pays de Scandinavie ayant plein d'îles, les gens utilisaient dans les ferries le fait que les alcools soient détaxés pendant les courtes traversées, pour boire un maximum moins cher. La pratique s'est développée ensuite au Royaume-Uni, puis elle a contaminé les écoles de commerce, et aujourd'hui elle est répandue chez les collégiens et les lycéens. C'est-à-dire que ça concerne beaucoup de jeunes gens qui vont à une fête chez quelqu'un en amenant une bouteille d'alcool. En général, ils boivent d'abord de la bière, et rajoute par-dessus de la vodka ou le fameux mojito, enfin du rhum, ou d'autres alcools forts. L'objectif étant de passer du mode prise de tête, qui est les contraintes, l'école, les soucis, toutes les prises de tête, au mode lâchage, on se dévergonde, on fait n'importe quoi, on se met sa culotte sur la tête, enfin, on peut faire plein de trucs de ce genre-là, en ayant bu énormément d'alcool en très peu de temps. On y reconnaîtra le phénomène du zapping. On passe le plus vite possible d'un mode, d'un état donné à un autre état parce qu'on ne tolère pas le différé. Mais on fait plus que ça aussi. Car dans une soirée de binge drinking, un adolescent sur 4 ou sur 5 vomit avant 2h du matin. Petit conseil, si vous avez un adolescent de moins de 16 ans qui vous dit « Je voudrais bien faire une fête à la maison, est-ce que vous pourriez aller dormir chez vos amis ?» Ça, ça commence mal déjà. Il ne faudra jamais laisser sa maison ou son appartement à une bande d'adolescents, même si vous les connaissez, parce que c'est obligatoirement du binge drinking qui va se produire. Alors vous allez, oh non, mais non, bien sûr que non. Madame Dupont croyait ça, la mère de la petite Vanessa. Alors, elle avait bien fait le tour de combien seront-ils, 10, qui, Michael, etc., enfin, tous les prénoms des gens, parfait. Elle ira faire les courses avec sa fille la veille dans la grande surface. La fille a prévu un punch, la mère a acheté un petit extrait de rhum pour la cuisine et 5 litres de jus d'orange, la pauvre femme. Innocente, hein. Donc, ma chérie, je vais t'aider à faire le punch. L'autre, oui, oui, maman. Une fois que maman et papa sont partis, Toto, le poisson rouge, part dans le lavabo et le bocal est utilisé comme récipient. On le met sur la table de l'entrée, on verse le punch de maman et chacun arrivant va verser la vodka, le whisky, et on met une louche et on touille. Des gobelets, et le défi, tous les prénoms en A boivent 5 verres d'entrée de jeu. Enfin, le genre, si vous voulez, un jeu. Des jeux, en fait, d'enfants, mais avec des substances adultes. Et donc, des quantités d'alcool absolument invraisemblables. Quand on me dit, ah, mais docteur, vous parlez des jeunes et de l'alcool, c'est vieux comme le monde. Oui, c'est vieux comme le monde de boire de l'alcool, jeune et vieux. Sauf que le binge drinking à la mode des ados d'aujourd'hui, vraiment, vraiment, c'est particulier, puisque chaque lundi, nous recevons dans mon service au moins 2 ados de moins de 16 ans qui ont été hospitalisés aux urgences pendant le week-end en état de coma éthylique. Coma éthylique. Jamais j'avais vu ça quand j'étais interne en psychiatrie. Hein. Jamais. Coma éthylique, jamais je n'ai vu un adolescent en coma éthylique il y a 30 ans. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Et qu'est-ce qui se passe là dans la soirée de la petite Vanessa? C'est que tout le monde arrive, boit. Le Michael, à 11h du soir, il est déjà malade, il part vomir dans la douche. Et sur les coups de minuit, arrivent 3 vieux de 18 ans, beaux comme des camions, donc on va pas les laisser à la porte. Ils arrivent, ils rentrent. Bien sûr, eux, ils sont déjà bien copieusement ivres. Ils vont aller dans la cave, ils vont essayer de forcer la cave du père. Enfin, vous voyez, les mauvais garçons. Et là, la fameuse Vanessa avec sa meilleure amie, elle va être bien embêtée parce qu'elle va avoir du mal à gérer une situation qui va être débordante. Car ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en l'absence d'un adulte dans les parages, ça sera forcément débordant au sens propre et au sens figuré. Car quand bien même Vanessa va réussir avec sa meilleure amie à expulser les 3 qui ont cherché la bagarre, etc. Ok, tout le monde finit par partir, elle range tout, elle nettoie tout. Le lendemain matin, Madame Durand arrive, suivie du mari derrière, hein, toujours maman devant, qui ouvre la porte, elle a l'œil américain, elle voit direct qu'il y a un truc qui est de guingois, des traces de serpillière au sol, oups, elle comprend qu'il y a eu du grabuge. Mais elle avait promis à sa fille de 16 ans de ne pas faire d'histoire, donc elle est tellement sympa, parce que le problème de beaucoup de parents aujourd'hui, c'est d'être trop sympa au niveau de l'absence de limites. Elle va dans sa chambre, et au moment où elle va jeter son manteau sur son lit, le 6e sens des mamans la retient, son geste s'arrête, car au beau milieu du lit parental, il y a une flaque de vomi orange, parce qu'ils ont mangé des pizzas. C'est-à-dire que là, voyez-vous, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au-delà des crises de boulimie avec vomissements provoqués, il est quand même très curieux que toutes les soirées de débauche adolescente avec de l'alcool finissent avec du vomi, c'est-à-dire un rendu, une restitution de quelque chose. Vous savez que sur les places publiques d'un certain nombre de villes, j'espère que c'est pas comme ça, monsieur le maire, chez vous, à Sainte-Afrique, mais il y a beaucoup de villes où, le dimanche matin, les employés municipaux doivent passer pour nettoyer les déjections des adolescents qui ont fait la fiesta, en laissant traîner des canettes, les cadavres de bouteilles, comme on dit, et des traces de vomi. Ça prend des fois des proportions incroyables. Certaines discothèques sont obligées d'employer du personnel pour nettoyer les toilettes, tellement il y a de vomi par terre. Vous le savez, ça ? Et certaines mamans qui auront fait les courses avec leur fille de 17 ans ou de 18 ans le samedi après-midi pour lui faire plaisir en lui achetant une nouvelle paire de chaussures s'étonneront que la jeune fille ne mette pas cette paire de chaussures le soir où elle sort en discothèque parce qu'elle ne veut pas gâcher ses belles chaussures dans le vomi. Moi, je crois, si vous voulez, que même si les jeunes n'en ont pas conscience, cette restitution est une manière de nous rendre la monnaie de notre pièce. Nous voulons les gaver, nous voulons les faire consommer, nous ne leur donnons pas tellement plus que ça que des choses à consommer, y compris des cours, ils nous le rendent à leur façon. Pour moi, l'ouverture au monde qui doit vraiment présider à l'attitude éducative, ça ne peut pas se faire en consommant tout fait des choses qu'on va éventuellement absorber et rejeter si on n'en a plus envie. C'est en devenant véritablement acteur, en faisant les choses. La meilleure prévention de la conduite addictive, c'est d'amener quelqu'un à produire quelque chose, à en tirer un intérêt particulier, et à ne pas être amené toujours à répéter une conduite identique pour s'oublier, pour amortir le poids des réalités, pour ne plus penser, pour ne plus souffrir. C'est être acteur de quelque chose, être acteur de sa vie, et comme ça commence par des tas de choses, ça commence à, il faut apprendre aux enfants à faire un peu de cuisine, on doit savoir arriver en sixième. Moi, je mets au-delà des, si vous voulez, de ce qu'il faut savoir en orthographe, ou il faut savoir faire cuire des pâtes, il faut savoir faire cuire du vrai riz, hein, des vraies pâtes du vrai riz, hein, je parle, hein. Savoir faire cuire un steak, savoir un minimum, si vous voulez, pour être capable de faire quelque chose de ses 10 doigts, mettre la main à la pâte. Et c'est d'ailleurs tellement au sens propre du terme qu'on veut le faire qu'au centre Abadie, nous allons faire le pain à nos adolescents. J'ai remporté le match. Mon administration me regardait en disant, vous savez, c'est compliqué, l'hygiène, les règles européennes, enfin bon. Mais comme le pain, si vous voulez, il n'y a pas d'œuf dedans, parce que sinon, là, c'est même pas la peine. Là, l'œuf, je ne peux pas y arriver. Hein. Je ne mets en route des œufs que clandestins. C'est pas possible. Mais fabriquer le pain est une manière, si vous voulez, de montrer que quelque chose peut s'obtenir par ce qu'on fabrique et qu'il faut un certain délai pour pouvoir le faire. Alors, je donne souvent l'illustration. J'ai le temps de vous la donner, l'illustration. Quand vous faites faire du pain à des adolescents, vous leur dites pas ce qu'il faut faire. Parce que leur dire ce qu'il faut faire, c'est déjà leur faire fermer les écoutilles. Vous les mettez en présence des ingrédients et ils vont très vite comprendre comment on fait une pâte. Ils vont d'ailleurs être très vite surpris de voir que finalement la pâte, alors une fois qu'on a compris qu'on rajoute un peu de farine pour qu'elle colle pas aux doigts, on obtient en effet une miche. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est facile, quoi, de faire. Putain, c'est le rêve, quoi, fabriquer le pain, c'est super cool. Au four, jusque-là, tout va bien. Ensuite, ils viennent voir de temps en temps, la miche grossit, c'est plutôt bon signe, ça commence à sentir bon le pain. Il y a tous les ingrédients qu'il faut pour que ça plaise à des adolescents, si vous voulez. Hein. C'est en train de devenir beau et ça sent bon. Une fois qu'on a l'impression que la miche a l'air assez dorée, on pense qu'elle est prête, on ouvre le four. Ah, sauf que là, on ne peut pas la prendre avec les doigts. On est obligé de prendre un torchon, parce que la miche brûlante, c'est pas possible. Est-ce qu'on va pouvoir manger maintenant directement ce pain? Bien sûr que non. Il faut le mettre à refroidir. Il commence à tourner autour, à venir voir si c'est assez refroidi. Enfin, ça commence à, vous voyez, à tournicoter autour. Une fois qu'ils ont l'impression que c'est tiède et que c'est bon, qu'ils peuvent le manger, le plus dégourdi va dire qu'il est prêt à couper des tranches à ses camarades qui ont déjà ouvert le pot de Nutella, prêt à se faire des tartines. Ce matin, on a... c'est Brigitte qui leur a demandé ce qu'ils aimaient le plus. Nutella, toute la forêt de bras, ben c'est invraisemblable. Bon. Donc là, il commence à couper des tartines. Et là, il va vivre une vraie déception, mais qui est très importante pour intégrer l'effort. Il va se rendre compte qu'une fois qu'on a coupé la tartine d'une miche qu'on n'a pas suffisamment pétrie, la mie ne tient pas. Et qu'il restera un bout de croûte, que tout le reste va partir en miettes, et qu'ils ne pourront pas mettre le Nutella dedans. Et à ce moment-là, on peut leur apprendre qu'il aurait fallu pétrir la pâte. Ça sera pour la prochaine fois. Et ça, ça apprend, voyez-vous. C'est une attitude éducative d'aujourd'hui, il faut leur faire mettre les mains à la pâte. Alors nous, je fais du bateau, et donc quand on les emmène en bateau, on leur fait toujours faire la même chose. Tous les ans, je fais la croisière des guerrières, on amène des jeunes filles méritantes qui ont été sélectionnées par les soignants, parce qu'elles se sont bien battues contre la maladie, qui peut être diverse et variée dans ses formes, et on les amène 3 jours en bateau, et je leur file un petit polycopier avant qu'elles viennent, avec quelques noms d'éléments du bateau pour qu'elle quand même sache à peu près dire ce que c'est qu'un phoque, un génois, enfin bon, ok. Et je leur dis d'apprendre 4 nœuds fondamentaux. Le nœud de chaise, le nœud de cabestan, le nœud de huit et le nœud de taquet, sans quoi on ne peut pas faire de voile. Elles me font toujours oui, 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 et en règle générale, 90% n'apprennent pas du tout à faire les nœuds avant de venir sur le bateau. Surtout, on les laisse faire. Surtout, voyez-vous, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut leur laisser faire l'expérience du ratage. Donc, on envoie une, on lui dit, tiens, tu vas aller mettre l'écoute là, au génois, tu vois, c'est la voile là-bas, avec l'œillet, tu fais un nœud de chaise. Ok ? Elle fait un nœud de chaussure. Parce que pourquoi, franchement, s'embêter à faire une espèce de truc tarabiscoté, alors que là, c'est facile, quoi, le nœud de chaussure. Surtout, on ne dit rien jusque-là. Là, on est au port, c'est nickel. Une fois qu'on sort du port, que le bateau commence à agiter, que l'écume commence à se manifester, le nœud de chaussure au génois dure 2 minutes, maxi. Au bout de 2 minutes, il y a le génois qui bat de l'aile, le pauvre, dans l'air, et là, le regard malheureux de l'adolescente qui voit que ça a merdé, quoi. Mais elle reste à attendre comme ça. Et l'on lui dit, comme je n'ai pas le droit de te noyer, je vais te tenir par le ceinturon derrière pour que tu ne tombes pas, mais tu vas aller le récupérer, le génois, puis tu vas lui faire un nœud de chaise. Mais c'est-à-dire que je ne sais pas trop bien comment il faut le faire, mais je vais t'apprendre. Et là, dans le bateau gité, alors qu'il y a l'écume, une fois qu'elle aura ramé pour récupérer le génois, on va lui apprendre le truc du serpent qui monte dans le puits et tout ça, mais elle est attentive. Tous ces neurones qu'elle a en plus de nous, là, ils sont branchés à fond, si vous voulez. Et là, elle le retient, le nœud de chaise, et après, elle s'empêche. On lui donne un morceau de bout, elle passe son temps à faire des nœuds de chaise, parce qu'elle a appris et intégré quelque chose. Vous voyez, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Nos enfants ne doivent plus être des consommateurs passifs si on ne veut pas qu'ils tombent dans l'addiction. C'est en ayant une position de consommateur qu'on peut tomber malheureusement dans l'addiction et quand on a des raisons évidemment de se barrer, de s'emprisonner soi-même dans un comportement ou avec une substance quand on ne peut plus supporter le poids de la réalité. Merci beaucoup de votre attention.